France Culture.
Science en son. Céline Lozen, Guillaume Baldi. Épisode 1. Écologie. La nature sur écoute.
Alors on se trouve en haut du village d'Argentière, au pied du glacier d'Argentière et juste en dessous de la benne qui nous amène en fait au juste un peu en dessous du glacier d'Argentière. Moi je suis surtout glaciologue, ouais. Glaciologue, et j'écoute les glaciers en fait avec la sismologie surtout. Pour regarder, pour écouter comment ils fonctionnent, comment ils craquent, comment ils se déplacent, comment ils s'écoulent. Et tout ça en fait en enregistrant leurs vibrations.
Dans le massif du Mont Blanc, un glacier a été mis sur écoute pour examiner son érosion sous la pression du climat.
Merci d'être là.
Enchanté.
Ça va?
Ça va, Hugo?
Ouais.
On y va?
Ouais, on y va.
Je savais pas quelle benne on prenait ça ou...
Oui, si on prend cette benne, ouais.
Okay,
il
n'y
a
que
celle-ci, de toute façon.
Et là, on va monter à combien?
Oh, là, on monte juste à 2000 mètres. Pour ensuite traverser un peu les alpages et aller vers le glacier d'Argentière. Je pense qu'on va passer par là.
Hugo Nani, Luc Moreau, glaciologue.
Voilà, donc on voit bien là sur le plan, hein, donc le village d'Argentière. Nous on a pris donc la télécabine Plongeant et on va se diriger vers le glacier d'Argentière à gauche là. On voit sur la photo du plan. Donc on va prendre un chemin qui démarre là et qui est un peu transversal en fait. Ça monte, ça descend, mais ça va, c'est assez facile.
Pour combien de temps on en a là de marche?
Là on a à peu près 30 à 40 minutes suivant le rythme quoi, mais on y va tranquillement quoi.
C'est parti.
Il n'y a pas de danger. Pas d'altitude. Et on va naviguer, le chemin va serpente un peu entre les rochers, les rhododendrons, les myrtilles, les terriers de marmotte.
Si on en voit.
Si on en voit. Et puis voilà la végétation rase des alpages quoi.
Ouais, j'ai dormi autour là. C'est avec
Delphine, ouais.
Elle m'a dit qu'elle était venue avec les
René. Ah oui, parce que René,
il adore
le... Ah, c'est
génial, hein.
Ah ouais,
génial,
vraiment.
Nous profitons d'un moment pour contempler le paysage alpin chatoyant, entre roches et végétation, avant de s'engouffrer sous le glacier.
Donc là, en fait, on arrive avec ce chemin à plat, là, vers l'entrée des galeries. On voit un petit morceau de la chute de Sérac du glacier d'Argentière. Là, on commence à voir le glacier. Donc, le glacier d'Argentière, c'est le deuxième glacier français, hein. Donc là, à cet endroit-là, il y a une rupture de pente. On voit moins de glace, évidemment, qu'il y a 35 ans, quand je suis arrivé, en 87-88. Donc là, on va arriver rive gauche du glacier, hein, dans le sens de l'écoulement de la glace. Et on voit en rive droite, on voit toute cette partie un peu plus claire, voilà, qu'il a bien usé, érodé il y a quelques années encore, hein, il y a 10, 20 ans, 30 ans. Donc c'est encore tout frais. Donc on voit bien l'épaisseur qu'il avait il y a 20 ans, 30 ans. Hein. On voyait bien des séracs. Et le glacier recouvrait complètement le verrou, c'est-à-dire la rupture de pente. On appelle ça un verrou. Donc toi, tu as travaillé sur le glacier d'Argentière.
Sur le glacier, mais ouais. Pour...
au-dessus.
Pour regarder ce qu'il y avait en dessous, sans aller en dessous.
Ça, c'est très très fort.
Alors que toi, tu as travaillé...
en dessous.
Pour regarder ce qu'il y avait en dessous.
Dans les galeries.
On est dans l'entrée des galeries, on est au rez-de-chaussée, il y a trois niveaux, rez-de-chaussée, premier, deuxième étage. Ici, il y a à peu près 4 km de galeries sous le glacier. Enfin, c'était anciennement sous le glacier, mais bon, le glacier s'est retiré, mais il y a encore une partie des galeries qui sont sous le glacier. Donc ici, on est au rez-de-chaussée, et ici, donc, il y a de l'électricité dans toutes les galeries. On va quand même prendre une frontale, un casque, éventuellement des bottes, on verra. Et puis ici, il y a un local survie qui permet de... Il y a une cuisine, il y a un dortoir. Des gants, ça... Donc moi, je vais prendre ici un petit truc, un petit blouson. Si vous voulez prendre... Attendez, je vais vous montrer dans la pièce d'à côté. Les cirés des moissons, ils sont à côté. Okay.
Nous sillonnons entre deux mondes, celui des galeries creusées par l'homme et celui de l'eau torrentielle de la fonte du glacier.
Voilà, donc maintenant on va monter au premier étage. Donc voilà, on a une jolie petite rampe d'escalier. Là, il y a 300 marches.
Une belle perspective.
Et ça se fait bien, hein, il y a 315 marches. Et à côté, on a un petit rail aussi hein, qui monte. On n'est pas à 45 degrés, mais presque. Hein. Et donc ça permet le petit chariot de monter le matériel. On ne monte pas dans le chariot pour aller jusque là-haut. C'est tiré par câble. Donc là, ici, vous voyez bien sur les parois, là, donc tout le creusement par minage dans les années 60-70, tout a été creusé de manière classique. Hein. On creuse, on fait des trous et on dynamite. Et on avance de 2 mètres, 3 mètres à chaque fois. Quoi. On fait 10 mètres par jour. Et tout ça à 45 degrés. Donc ça, c'est un boulot. C'est pour ça que tu comprends qu'il y avait un local survie avec des gens qui vivaient là. Mais ils vivaient, le local n'était pas aussi confortable à l'époque, hein, dans les années 60. Hein. Allez, c'est parti. Bon. Ça va réchauffer aussi.
Au cœur des galeries, c'est un espace obscur, glacé, un peu terrifiant, mais merveilleux qu'on explore à la petite lueur de nos frontales.
Voilà donc le laboratoire sous-glaciaire, installé à l'époque, dans les années 70, par Robert Vivian et l'EDF. Oui, Robert qui était mon directeur de thèse. Hein. Donc ici, on est dans le labo. Hein, ça a été creusé dans la roche. Et donc, ici, il y a donc un établi, on voit, hein, il y a des outils. Puis ici, j'ai un enregistreur. Alors, j'ai eu plusieurs enregistreurs hein, depuis une trentaine d'années. J'ai deux enregistreurs, en fait. J'ai un enregistreur numérique, digital. Et puis, j'ai toujours un enregistreur papier. Parce que j'aime bien, quand j'arrive, visualiser la petite roue de vélo. Donc ces enregistreurs sont reliés voilà, à cet instrument qu'on appelle le cavitomètre.
Alors comment il fonctionne ce cavitomètre ?
Alors ce cavitomètre, en fait, on va aller le voir hein, dans la cavité. C'est une roue, en fait, au bout d'un bras, qui est donc plaqué sous la semelle du glacier, sous le glacier. Est en contact permanent avec la semelle du glacier et qui est entraîné par le glissement du glacier. Et donc on mesure le glissement du glacier en un seul point dans cette cavité par la rotation de la roue.
Nous, la question à laquelle on essaie de répondre, c'est quel est l'effet de la fonte de surface sur la vitesse et sur la stabilité du glacier. Et comme on sait que pour répondre à cette question, il faut être capable d'observer la manière dont l'eau se déplace sous le glacier, et c'est pour ça qu'on vient installer des sismomètres, qui nous donne pas qu'une information sur la quantité, mais aussi sur la vitesse et surtout sur la pression de l'eau. Parce que c'est cette pression qui va venir découpler le glacier de son socle rocheux. Alors on va pouvoir d'abord savoir les relations fondamentales, on va dire, entre la fonte, le glacier et sa vitesse. Et ensuite de ça, on va pouvoir déduire certains paramètres sur la stabilité. Par exemple, est-ce qu'on observe beaucoup plus de craquements, de crevasses qui s'ouvrent ? Est-ce qu'on est en train d'avoir des signaux un peu précurseurs d'une instabilité ou d'un effondrement d'une partie du glacier, quoi. Donc il y a vraiment d'abord cette première question qui est un peu le degré zéro de la recherche, qui est la question est-ce qu'on peut observer ? Et ensuite, maintenant qu'on a répondu à cette question, on peut utiliser la sismologie, et bien, quels sont les indicateurs qu'on va utiliser pour étudier la stabilité du glacier ? Les indicateurs, c'est beaucoup, hein, la quantité de vibrations et leur signature. Les crevasses qui s'ouvrent, ça fait une vibration caractéristique. L'eau qui s'infiltre sous le glacier et qui peut créer des poches d'eau, ça fait d'autres vibrations caractéristiques. Et nous, on va venir regarder ces vibrations et du coup déterminer le potentiel risque glaciaire et périglaciaire sur tout ce qui va s'en suivre après, quoi. Donc là, en fait, les vibrations qu'on étudie, nous, c'est dans la sismique et elles ont une signature, elles ont un contenu fréquentiel qui est entre 5 et 15 Hz, vraiment. Donc c'est très très basse fréquence et ça c'est pourquoi ? C'est parce que aussi c'est des phénomènes physiques qui ont cette signature. Donc chaque phénomène physique a une signature fréquentielle. Ma voix est plus ou moins grave en fonction de la signature qu'elle a. Et bien pour le glacier c'est pareil, mais entre 5 et 15 Hz on ne peut pas entendre ces vibrations à l'oreille humaine. Alors nous ce qu'on va faire c'est augmenter finalement l'échantillonnage, augmenter la fréquence pour traduire ces vibrations pour qu'on puisse les entendre.
Va voir la roue. Ok, donc on va aller dans la cavité, voir le cœur du problème. Alors, attention la tête. Attention la tête, c'est très bas. Tu vois que les escaliers là, c'est pas du marbre mais c'est du granit. Hein.
Ah, c'est pas mal, hein. C'est
chic. Quand même, hein, c'est le temple, les escaliers du temple. Donc le cavitomètre.
Donc là, on est vraiment à la base du glacier. Donc ce que je disais, c'est que le glacier. Au-dessus de nous, il va faire une soixantaine de mètres d'épaisseur. Et en fait, comme il y a une sorte de dépression dans la roche, le glacier il se décolle un peu à cet endroit-là. Et donc, on est à l'interface entre la glace et la roche. On est sous le glacier.
C'est beau. On dirait un ciel étoilé.
Ouais, t'as raison. C'est un ciel étoilé de... de comètes, de la glace, la semelle du glacier. Là, on voit en fait de la glace qui a quand même été influencée par les courants d'air. Donc, il y a une érosion en coup de cuillère. On appelle ça de la cavitation, d'ailleurs. Mais on est dans une cavité aussi.
Et on voit là, vraiment, sous la glace, on voit la roche. On voit des bouts de roche, en fait, qui sont emprisonnés dans la glace. On voit aussi de la poussière qui est dans la glace. Et on voit que c'est pas une glace qui est non plus très, très propre, hein. C'est le contact entre... la glace, elle vient vraiment prendre un peu ce qu'il y a à l'interface, arracher la roche. On voit de l'eau qui coule un peu de partout. Des endroits comme ça, ça nous permet aussi de comprendre un peu la complexité quand même de la base d'un glacier, qui n'est pas juste un contact très propre entre la glace et la roche.
Donc là, en fait, on est devant... Donc dans cette cavité, vous faites attention. Là, en dessous, il y a le puits numéro 1, le captage 1. Il n'est pas profond, mais il fait quand même 15 mètres. Et donc, on voit qu'il y a de la glace qui pénètre à l'intérieur.
parce qu'au mois d'avril, les gens des Maussons fondent un peu la glace à l'eau chaude. Et comme aujourd'hui le glacier ne glisse plus beaucoup, il ne rebouche pas le puits de captage. Par contre, il y a une trentaine d'années, il glissait encore de 50 cm par jour. Et là, pendant l'hiver, il remplissait complètement et on pouvait presque toucher le glacier ici. Et la route vélo, elle se trouve juste là. Donc je vais vous faire monter un par un. Moi, je vais monter à l'instrument et puis il y a quelqu'un qui peut venir, on ne peut pas être beaucoup. Hein.
Capter les vibrations acoustiques d'un milieu souterrain est une approche appliquée aussi pour sonder l'intérieur des volcans. Leurs ondes sismiques nous révèlent comme jamais leurs entrailles.
Jean-Christophe Komorowski, donc je suis géologue des systèmes volcaniques, physicien à l'IPGP, et je travaille sur la Soufrière depuis près de 30 ans, donc je suis un collègue d'Arnaud Burtin. On se trouve dans les sous-sols de l'Institut de physique de Paris, dans le bâtiment Cuvier, et donc on va rentrer dans la lithothèque de l'IPGP qui contient toutes les archives solides, hein, tous les échantillons de roches collectés lors des campagnes de recherche et de surveillance, notamment sur les volcans.
Alors c'est un espace qui se présente un peu comme une sorte de grand herbier avec une bibliothèque avec plusieurs étagères, plusieurs rangées.
Voilà, sauf qu'on n'a pas des herbes ni des plantes dans toutes ces boîtes, on a des roches. Et donc on a des rangées avec des colonnes et puis des rangées, et donc des boîtes en plastique et qui contiennent des roches de différentes campagnes de collecte. On va par exemple aller explorer dans l'armoire D. Je tire une caisse par exemple et on voit qu'on a les échantillons SOU, c'est soufrière, et puis donc c'est la soufrière de Guadeloupe. Ce sont des échantillons qui ont un code barre qui correspond à leur nomenclature dans un fichier international d'échantillons géologiques. Et ces échantillons permettent de reconstruire le passé éruptif de la soufrière de Guadeloupe et évidemment de faire le lien avec la structure actuelle de ce volcan qu'on peut imager avec des techniques géophysiques, par exemple le bruit ambiant sismique.
D'accord, bah maintenant qu'on a vu un peu les échantillons qu'on pouvait ramasser à la soufrière, je vous propose de monter dans mon bureau pour voir un peu comment on peut étudier un peu différemment cette soufrière au travers d'instruments qu'on déploie au sommet.
Nous sortons du sous-sol pour aller écouter les vibrations de la soufrière placée sous haute surveillance depuis sa dernière éruption en 1976.
Le volcan de la Soufrière, alors c'est le point culminant de l'arc des Petites Antilles. Hein, il culmine à plus de 1460 mètres. Et
Arnaud Burtin.
Sa particularité, c'est que c'est déjà un volcan qui est en vigilance jaune. Et l'activité à la Soufrière de Guadeloupe va se manifester en surface par de nombreuses fumerolles. Une activité fumerolienne intense, beaucoup aussi de sismicité. Parfois, on va pouvoir enregistrer plusieurs milliers de séismes par an.
Alors, de quelle manière vous étudiez ce volcan pour essayer de comprendre mieux les mécanismes internes afin d'améliorer la surveillance de ce volcan ?
Alors, dans le cadre de l'étude qu'on a pu conduire à la Soufrière, donc on a utilisé en fait des capteurs qui s'appellent des géophones. Alors c'est l'équivalent d'un sismomètre, hein. C'est des instruments qui vont enregistrer les vibrations dans le sol. C'est ce qui va nous permettre d'écouter justement les ondes qu'on n'est pas en capacité d'écouter à l'oreille humaine. Et donc ces sismomètres ou géophones, hein, c'est des instruments qui se constituer d'une masse à l'intérieur de notre instrument qui va en gros osciller. Et on va enregistrer le mouvement de cette masse. Et c'est ce mouvement qui va nous traduire les vibrations que l'on enregistre avec le capteur. Sur cette expérience, en fait, ça a été une expérience temporaire hein, qu'on a conduit. Donc, on a déployé pendant 2 mois 65 capteurs de façon temporaire. Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre énormément de capteurs au même endroit pour justement faire un réseau dense. Donc, on appelle un réseau de nodes où on va pouvoir déployer sur des géométries très denses, donc un maillage typiquement des grilles, qui nous permettent d'avoir une capacité d'écoute, si je puis dire, qui est très importante et qui va nous permettre voilà, ponctuellement d'avoir énormément de détails dans l'étude des signaux qu'on va pouvoir enregistrer. Et donc c'est cette force de frappe qui est extrêmement pertinente dans le cadre de cette étude, mais qu'on ne peut pas faire en permanence. Alors, le résultat en fait qu'on a pu obtenir grâce à l'utilisation de ce réseau, c'est une imagerie, à l'instar de l'imagerie médicale que l'on peut faire du corps humain, de l'intérieur du volcan, sur une très grande profondeur. Et ça nous a permis de tracer un peu le conduit magmatique de sa surface vers les plus grandes profondeurs et voir comment il s'enracinait à des profondeurs jusqu'à une dizaine de kilomètres. Et les résultats qui nous sont apparus en fait à l'issue de cette imagerie, ça a été la confirmation un peu des modèles conceptuels qu'on se faisait d'une chambre magmatique sous un volcan. Et donc ça a été la première image de ce modèle conceptuel qu'on avait pu mettre en évidence au travers d'autres études, mais de façon indirecte. Ce qu'on est en train d'observer, c'est vraiment l'équivalent d'une échographie. Donc, c'est une image où on va observer la structure de l'intérieur du volcan. Et à l'image d'une échographie où on va voir un peu la réflectivité des organes, ici, on va voir la transition dans le milieu des couches réflectives. Et ce qui va ressortir en premier lieu, c'est le conduit par lequel le magma va arriver en surface. Dans la première partie du profil, donc sur les 5 premiers kilomètres, on va visualiser un conduit qui est à peu près unique, mais qui a une géométrie un peu tortueuse, qui tend à tourner sur lui-même, un peu comme une hélice. Et entre 5 et 10 kilomètres à peu près, on voit que cet enracinement, il vient se matérialiser dans une multitude de petits réservoirs magmatiques. Donc c'est comme si notre milieu était constitué d'une infinité de petits réservoirs magmatiques. Il faut s'imaginer comme si on avait une éponge avec des lentilles de magma qui sont présentes dans le milieu. Et ces lentilles de magma sont interconnectées entre elles verticalement par des petits conduits. Et donc ça, c'est un aspect pyramidal. Et en surface, on retrouve notre conduit qui va être très tortueux jusqu'au sommet de la Soufrière.
Je voudrais vraiment m'attarder sur la nature du signal.
Oui.
Et on mesure donc du bruit sismique, des ondes mécaniques, pression, cisaillement, etc. Mais finalement, c'est inaudible, c'est du bruit mécanique. Comment on peut le rendre audible ? Est-ce que ce serait possible de faire une écoute ?
Avec nos sismomètres et donc le géophone qu'on a utilisé pour cette expérience, on va enregistrer des ondes. Et donc les fréquences typiques que nous, on va enregistrer, c'est de l'ordre... En fait, ça peut être des choses sous le hertz, donc plutôt basse fréquence, et jusqu'à en gros une cinquantaine de hertz. Donc on est en dessous de l'audible. Mais c'est la capacité que vont avoir les sismomètres, c'est de pouvoir enregistrer ce contenu en fréquence et que nous, on va pouvoir ensuite analyser. Alors, ouais, on peut justement un petit peu tricher. Et en compressant le signal, on peut rendre ce signal, on va dire, basse fréquence à plus haute fréquence. Et à partir de là, il devient audible. Et ce qui est assez intéressant à la soufrière, c'est qu'on a un signal assez caractéristique. Mais disons que la version du volcan, c'est un drum beat. Donc un drum beat, c'est un peu comme son nom l'indique. C'est un signal comme quelqu'un qui ferait un tempo avec une batterie. Et donc c'est un signal qui revient de façon récurrente avec un intervalle bien précis. Et donc pour le mettre en son, on peut utiliser justement le signal sismique associé à des stations. On compresse et on peut écouter un peu à quoi ça ressemble. Donc je peux vous faire écouter à peu près à quoi ça ressemble.
Allez.
Ah oui, je vais mettre un peu. Donc là, ce qui est compressé, c'est l'équivalent de 24 heures d'enregistrement qui va être compressé sur 3 minutes. Donc là, sur 24 heures, ça oscille pas énormément, mais sur une année, puisqu'on l'enregistre déjà depuis août 2023, on s'aperçoit que on peut avoir des sources qui oscillent entre quelques minutes à une demi-heure. Et alors moi, ce qui m'avait plutôt frappé en écoutant ce signal, alors c'est purement artificiel, hein, mais c'est sa correspondance, sa similitude avec en fait quelque chose qu'on entend classiquement en Guadeloupe ou dans les Antilles, c'est le bruit des grenouilles la nuit, où on a quelque chose qui est vraiment du même style.
C'est vrai, on dirait un croassement nocturne.
C'est ça. À tous ceux qui ont passé un peu de temps en Guadeloupe diront la même chose. Hein. Ça, c'est c'est typique de la nuit en Guadeloupe. Voilà. Et donc cette chose, elle est assez intrigante parce que elle est encore assez mystérieuse pour nous, parce qu'on n'a pas toutes les explications sur en fait sa variabilité. On ne sait pas pourquoi elle est apparue. Elle est apparue soudainement. On avait auparavant une sorte de bruit continu. Donc là, c'était plutôt un trémor. Soudainement, ce bruit continu s'est arrêté et a fait suite ensuite ce drum beat.
Avec les sons, c'est toute une dimension invisible des écosystèmes qui se dévoile. Et surtout, le vivant, la biodiversité. La biogéophonie amène alors à mieux évaluer les effets de la pression anthropique. C'est le cas des forêts, mises sur écoute pour détecter la faune locale.
Bonjour, je suis Valérie Delage, chef de projet environnement à l'Office national des forêts, agence Île-de-France Ouest. Donc ici, nous sommes dans la forêt domaniale de Rambouillet. Nous sommes dans un endroit très particulier puisque nous sommes dans une réserve biologique. C'est une forêt qui fait environ 15 000 hectares, une forêt domaniale qui est organisée autour du domaine historique de Rambouillet avec son château. Et donc le massif forestier est en grande partie domanial, donc c'est 15 000 hectares. Il est environné aussi de bois privé. Au total, ça fait presque 20 000 hectares. Alors nous, la particularité, nous sommes dans un de ces sites qui s'appelle le Grand Étang Neuf. Au total, il y a 1150 hectares de réserves biologiques dirigées qui sont réparties en 19 morceaux, on va dire en 19 zones. Nous sommes sur la zone du Grand Étang Neuf qui fait 250 hectares environ. Alors c'est une réserve biologique dirigée, c'est-à-dire que c'est un espace en réserve, mais on fait aussi des interventions, notamment de ce qu'on appelle du génie écologique. Donc on est dans une réserve biologique dirigée, il peut y avoir des interventions, mais dans cette réserve biologique dirigée, il y a des zones qu'on appelle en libre évolution. Donc ça ressemble quand même beaucoup à une réserve intégrale, même si formellement ça n'en est pas une. C'est une forêt, historiquement, les zones les plus anciennes, ce sont des forêts feuillues. Donc on va avoir différents types, on va avoir à la fois notamment sur les plateaux, sur les zones un peu plus sèches, on va avoir de la chênaie, on va avoir énormément du bouleau, là l'essence d'accompagnement par excellence. On va avoir, alors dès que ça va être un peu plus neutre, on va avoir du charme. et dont on va avoir aussi ponctuellement du hêtre. Et après, on va avoir ce qu'on appelle des boisements humides, parce que Rambouillet, c'est une forêt acide et c'est une forêt humide aussi. Donc on va avoir des boisements humides avec toujours le bouleau, pas forcément la même espèce de bouleau, de l'aulne, énormément d'aulne, et puis différentes espèces de saules.
Jérôme Sueur, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et pionnier de l'écoacoustique, décrypte le paysage sonore autour de nous.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là à l'instant ?
Un avion. Un avion, parce que c'est un peu, je vais dire, presque la marque sonore de tous les lieux de France. C'est un son, un bruit qui est presque inévitable, où que vous soyez, même si vous vous éloignez. Des villes, des villages, ben vous pouvez être survolé. Donc c'est un son qui est très présent.
C'est la technophonie alors qui
c'est
fait
la technophonie,
partie
c'est ça.
Du paysage sonore. Qu'est-ce qu'un paysage sonore, le soundscape, d'où provient cette notion?
Alors c'est une notion qui commence à être un petit peu ancienne, hein, qui date des années 70, qui vient en fait de Murray Schafer, qui était un universitaire canadien, qui n'est pas biologiste ou écologue, qui est plutôt musicologue, hein, musicien, et qui a mis en avant cette dimension des sons dans l'environnement, dehors, hein, plutôt, qui n'est pas focalisée sur certaines sources sonores. On pourrait s'intéresser qu'aux avions, par exemple, ou qu'à une espèce d'oiseau ou de grillon, ou à la voix humaine. Lui, l'idée, c'est de considérer tous les sons dans un endroit donné. Et son approche est très anthropocentrée, c'est-à-dire qu'un paysage sonore est défini selon ce que l'humain, l'oreille humaine va pouvoir entendre, interpréter, apprécier ou pas. Et après, il y a d'autres notions qui sont beaucoup plus éco-centrées finalement, avec notamment Bernie Krause, qui est un musicien et un preneur de sons, pareil, dehors, dans des environnements naturels. Et là, l'idée est d'avoir une dimension plus écologique, où le paysage sonore n'est pas simplement ce que l'humain perçoit, mais qui va être l'ensemble des sons qui vont être produits à un endroit donné sur un temps donné. Après, ce paysage sonore, un soundscape qui fait référence au landscape, au paysage visuel, auquel on est en fait beaucoup plus habitué. Si on parle de paysage, tout de suite on a une vision. Et donc c'est cette dimension sonore qui est en fait nouvelle et qui n'est pas forcément commune. Je pense que pas grand monde pense au paysage sonore. Le son est une dimension très dynamique, à la fois en espace et en temps. Dès qu'on va bouger, on va en effet se rapprocher de certaines sources ou s'éloigner d'autres. Et puis avec le temps, il va y avoir une dynamique qui est très forte. Alors que c'est vrai qu'un paysage visuel, évidemment, là, ça bouge un petit peu, les feuilles bougent, etc. Mais c'est beaucoup plus statique. Et c'est aussi toute l'excitation à étudier ces paysages sonores. C'est-à-dire que c'est jamais vraiment la même chose. Si on revient demain, ça sera différent. Notamment aussi, on a eu une petite mésange qui est passée. Aussi la météo, tout simplement. Hein. Le son va complètement être différent. S'il fait très beau, s'il y a de la pluie, s'il y a du vent, etc. C'est ultra dynamique en espace et en temps.
Jérôme Sueur, vous êtes éco-acousticien. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
Oui, alors l'écoacoustique, c'est une discipline pas très ancienne, elle a une dizaine d'années, elle a été formalisée il y a une dizaine d'années.
Par vous notamment.
Ouais, entre autres, en tout cas au Muséum national d'histoire naturelle. Et elle consiste en fait à étudier le vivant sonore, mais en se posant des questions d'ordre d'écologie, d'interaction entre les êtres vivants, en se posant des questions sur l'état écologique d'un milieu, comme cette forêt, essayer de savoir quelle est son évolution, quel est son état en l'écoutant. Donc ça veut dire que historiquement, en fait, on s'est intéressé au son du vivant, typiquement le chant des oiseaux, les stridulations des grillons, pour des questions d'éthologie, du comportement animal. On veut savoir pourquoi cet insecte tritue, pourquoi cet oiseau chante, là, pourquoi il y a ce petit cri d'oiseau, pourquoi ils font ça, comment ils font ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils se disent, etc. Et là, l'idée, c'est on va plus s'intéresser à ce comportement, mais on va utiliser ce comportement comme un indicateur écologique, notamment un indicateur de la présence de cette espèce. Donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'on se concentre plus sur une espèce, d'oiseau, de grillon encore, ou de grenouille, mais on va prendre tout ce paysage. On retrouve cette idée de paysage qui nous permet d'élargir, en fait, nos oreilles, et d'être un peu moins sélectif. Donc, une des grandes questions, c'est de savoir est-ce qu'on peut avoir des informations sur le niveau de biodiversité, simplement par l'écoute, par l'enregistrement. Hein. On passe maintenant plus souvent par des microphones que par nos oreilles, peut-être malheureusement, mais voilà, il y a de la technique qui rentre dans cette discipline.
Alors, vous avez vu les petits oiseaux qui étaient passés là ? Alors, sauf erreur, hein, au début, on a eu un petit pitié, ça c'est la mésange nonnette, sous réserve parce qu'on ne l'a pas vu. Que ce soit pas une maison charbonnière qui fasse des blagues, parce qu'une maison charbonnière limite tout le monde. Et un peu plus loin, on a eu un cri qui peut être charbonnière bleue, plutôt bleue je dirais, mais bon, c'est un peu difficile. Tout à l'heure, on a eu un peu de troglodyte derrière, un peu de rouge-gorge. Et je sais pas, peut-être en arrière-fond des interviews, vous avez des petits cris de bébé, qui étaient un peu loin derrière. En fait, je pense que c'est du jet. Derrière, il y avait une bande de jet qui jacassait, donc les jets, c'est des corvidés. Ils ont un syrinx, ils sont capables d'imiter la voix humaine, ils font ce qu'ils veulent avec, hein, vraiment. Et donc, le jet, typiquement, il limite des cris de buse pour essayer de faire la place autour de lui, quoi. Il limite des cris de prédateurs.
Il n'y avait pas des pigeons ramiers au loin ?
Ah, j'ai pas entendu des pigeons ramiers. Ouais.
Et un avion.
Grégoire Loïs, ornithologue et naturaliste au Muséum National d'Histoire Naturelle, nous invite à admirer des bourdons en train de butiner.
Là, ce qui est chouette, c'est qu'il fait froid. Ben, alors ça, c'est des centaurées. Des fleurs violettes. Ouais, c'est vrai, on dirait des petits pompons violets, c'est joli. Et alors, ce qui est rigolo, il fait quand même un peu frais aujourd'hui, il y a un peu de pluie, mais il y a quand même des bourdons qui sont en fin de saison, là, vous voyez, derrière vous, regardez. C'est, peut-être avec le micro, vous allez entendre le bourdonnement. Il y a un suivi qui est basé là-dessus, sur l'intensité de la pollinisation. Donc on met, et c'est aussi Jérôme et Ludo a fait sa thèse là-dessus, on met des micros dans les champs cultivés de plantes à fleurs, donc ça va être principalement colza tournesol, et en fait on écoute la densité de bzzz, de bourdonnement, quoi. Et ça nous donne une estimation du service de pollinisation. Et donc les bourdons, équipés comme ils sont, parce qu'ils sont presque velus, hein, mais en fait ça va être des insectes qu'on va trouver le plus haut en altitude, le plus au nord en latitude, pour le coup, donc c'est des trucs qu'il y en a en Islande, ça fait partie des rares hyménoptères, donc la famille des bourdons, des fourmis, des guêpes, des abeilles, à aller très très haut en altitude et très très au nord en latitude. Et puis par contre, ils n'aiment pas trop quand il fait très chaud.
Où est-ce que vous nous amenez, Grégoire Loïs ?
Alors là, on va aller, donc on circule, ça a été très très bien expliqué tout à l'heure, là on arrive dans du bouleau. Il reste un peu de résineux, on va passer la petite butte, on va redescendre, et donc on va traverser un peuplement d'aquilaires, hein, donc des fougères, vous allez voir, on ne voit pas grand-chose, hein, ça nous dépasse presque. Et puis il y a un petit groupe de quelques arbres, et il y a le micro qui est accroché à peu près à hauteur d'homme, quoi. Dedans, j'espère qu'il sera toujours là, parce qu'évidemment, de temps en temps, ça disparaît. A priori, ça devrait être toujours là. Et donc tout à l'heure, la dame de l'ONF, elle parlait du fait que c'était une forêt où il y avait beaucoup de pâturage. Et en fait, ce qui reste de ça, c'est les landes. Et ce qui reste des landes, et ben c'est ça. Alors ici, de la calune et de la bruyère. Donc vraiment des petites plantes de l'eau. Donc là-bas, de la calune et de la bruyère. Là, sur les troncs, on voit qu'il y a les bois qui grattent. Il y a les velours, là, les cervidés essaient de se débarrasser de leurs velours, donc ils frottent. Et donc, on est vraiment dans une zone quand il y a beaucoup de grandes fougères comme ça, où on pourrait lever une biche ou un cerf qui passe la journée couché là-dedans, quoi. Ce serait cool. Hein.
Et les enregistrer aboyer.
Ouais, et en effet, les chevreuils. Les chevreuils aboyés, ouais, ça c'est pas cool.
Un peu gros.
Le diamètre est pas.
Oui, ça
correspondait. Non, t'as bien travaillé.
Eh, j'ai pas amené la clé moi.
Non, mais t'inquiète, c'est pas grave.
Donc voilà, on est arrivé. On est arrivé au site où l'enregistreur est posé sur un pin, hein, parce que effectivement, il faut un arbre de diamètre pas trop conséquent. Bah, on a un truc qui est un peu plus gros qu'une motte de beurre, hein, à peine, avec un micro sur le côté. Et donc, quand on l'ouvre, il y a une petite interface de programmation avec quelques petits pouces-boutons, là. C'est vraiment très sommaire, et un petit écran LCD, et puis un compartiment à piles. Et donc, c'est avec l'Agence régionale de la biodiversité qu'on s'est dit qu'on allait poser ça. On essaie de s'investir dans les programmes de sciences participatives. Et puis, l'idée, c'est qu'on vienne l'entretenir et qu'après, on le confie à Jérôme et Ludo, quoi. Je te laisse la place.
Donc moi je suis Ludovic Rochard, je travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle et je suis le coordinateur du projet Sono Silva. Donc le projet Sono Silva, c'est un projet de suivi de la biodiversité, un projet de suivi acoustique de la biodiversité dans les forêts protégées de France. Donc on suit 110 forêts actuellement. Le projet avait commencé en 2024 avec 103 forêts, on a ajouté des nouveaux sites comme celui d'ici cette année. C'est un projet qui court jusqu'à fin 2026. Pour l'instant, qui sera peut-être amené à perdurer et à évoluer. Et donc l'objectif de Sono Silva, c'est de faire un état des lieux des paysages sonores des forêts protégées de France et notamment de voir un petit peu l'impact anthropique et la pollution sonore qu'il y a dans les milieux qui sont normalement protégés et pour lesquels la pollution sonore n'est pas forcément prise en compte. Donc on met des enregistreurs à partir du mois de février jusqu'à la fin du mois de septembre. On les place en cœur de forêt, on essaye d'être pas trop près des chemins, pas trop près des routes, pas trop près des étangs pour éviter d'avoir des sons qui proviennent plus des étangs, des mares, plutôt que des sons forestiers. On enregistre une minute, toutes les 15 minutes, et un jour sur deux, ça nous suffit, c'est assez représentatif du milieu et du paysage sonore. Ça évite d'avoir des quantités de données astronomiques après à stocker et à analyser. Alors, étant donné qu'on n'enregistre que dans l'audible, on va se focaliser donc sur les espèces déjà qui font du bruit. Donc on va avoir des oiseaux essentiellement. On va avoir aussi quelques insectes.
On a eu la route aussi, on entend la route. Hein.
Ouais.
On a eu la route, les avions, la pluie. Et alors là, c'est que c'est des mésanges.
Ouais, c'est une petite ronde de mésanges. Alors ouais. Je soupçonne un peu de mésanges à longue queue. Il n'y a pas eu de cris vraiment typiques, mais il y a des cris très très fins. Puis après, il y a des cris typiques qu'on n'a pas encore entendus, on peut les avoir.
Et c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire que quand on est hors période de reproduction, les oiseaux font essentiellement des cris qui sont beaucoup plus difficiles à identifier. Donc Grégoire est très entraîné, mais même là, tu faiblis.
Là, il me manque une paire de jumelles et un peu de temps pour vérifier. Et puis, à propos de un truc quand même qui est vraiment génial avec les enregistrements passifs, et les enregistrements d'une manière générale, c'est effectivement que les données, elles sont stockées, elles sont disponibles. On pourrait essayer d'évaluer avec 1 million de minutes la productivité, parce qu'en fait, on va avoir des cris de jeunes après la période de reproduction. Donc en fait, on pourrait voir une variation de densité de cris de jeunes pour les diverses espèces, c'est des trucs qu'on sait bien identifier. Il y a les cris d'alarme aussi. On pourrait avoir une idée de la pression de prédation en regardant, par exemple, la densité de cris d'alarme qui sont très bien connus des espèces pour les... Pour les mésanges charbonnières, elles ont un cri d'alarme qui est différent pour les prédateurs qui viennent du ciel des prédateurs qui viennent du sol. Donc en plus, on peut aller assez finement dans le truc. Et tout ça, ça va être à disposition, quoi. Ça va être un matériel pour le futur, quoi.
Ça, c'est vraiment le principe d'une collection, telle qu'on les a au muséum. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément étudiées immédiatement. Elles peuvent attendre longtemps sur les étagères, quelquefois des dizaines d'années. Mais l'information est là. Donc en plus, ce sont des bases de données là, qui sont numériques, donc qui sont partageables assez facilement. Et donc on travaille un petit peu aussi pour les générations futures, à la fois les générations de chercheurs, mais aussi de citoyens, parce que ce projet, Sono Silva, c'est aussi un témoignage d'espace sonore, de paysage sonore dans les forêts françaises à un temps donné. Souvent on me demande mais comment c'était Rambouillet il y a 50 ans, comment ça sonnait? J'en sais rien. parce qu'on n'a pas ces documents. Donc c'est aussi cette motivation de documenter pour le futur et aussi peut-être de sensibiliser, c'est-à-dire que par les oreilles, on a une autre ouverture, une autre, un autre lien avec, avec les environnements naturels, notamment les forêts. Et quand on écoute, hein, on change de posture. Hein, vous avez vu, on se tait, hein, on n'a pas bougé, pas parlé. C'est dur de pas bouger, pas parler. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on observe. On observe avec ses oreilles, aussi ses yeux, bien sûr, on va pas s'interdire ça. Mais ça, on se met dans une posture de lien, en fait, de contact. Et ça, c'est aussi important. C'est pas que des grosses, je donne des grosses bases de données. C'est aussi essayer de sensibiliser par l'écoute.
L'écho-acoustique se déploie aussi dans l'océan.
Pouillot, petit cri de contact de Pouillot, là.
En levant des paysages sonores sous-marins, c'est un espace immense, fascinant et inaccessible qui devient tangible. À l'Institut Jean-Laurent d'Alembert de Sorbonne Université, une équipe met sur écoute des cétacés qui sillonnent les océans.
En fait, quand on enregistre une espèce non humaine qui émet des sons, la première chose qu'on peut faire déjà, c'est de la détecter et donc de savoir qu'elle est présente dans la zone autour du microphone ou de l'hydrophone, hein, d'accord ? Et puis après, on peut faire d'autres choses. On peut savoir quelle est son activité, parce qu'en fait, il y a des sons qui sont liés à des activités vitales, comme se nourrir, par exemple. On ne fait pas les mêmes sons que pour se reproduire. Et puis après, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin pour décrire des comportements et décrire des interactions. Et chez les cétacés, en fait, ce sont des groupes sociaux. Et donc, il y a une partie des sons qui sont utilisés uniquement pour des interactions sociales entre les individus d'un même groupe.
D'un point de vue méthodologique, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. En mettant un micro dans l'eau, on enregistre tout ce qu'on appelle un paysage sonore. Donc, on peut faire de la bioacoustique, vraiment étudier le modèle de production et faire un peu d'éthologie, en fait. Étudier l'utilité du son, pourquoi ce son est produit, quel rapport, quel intérêt ça va avoir dans ce groupe social, par exemple. Mais on peut aussi faire ce qu'on appelle plutôt de l'écho-acoustique, c'est-à-dire placer ce son dans le contexte d'un paysage sonore plus large. Et là, ici, on va pouvoir s'intéresser à donc détecter les cétacés, savoir quand ils sont là, quelles sont les conditions de leur présence, avec quoi ils doivent interagir, et notamment, effectivement, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle l'anthropophonie, donc les sons produits par les humains, parce qu'évidemment, en mettant un micro dans l'eau, on enregistre la baleine, mais le bateau qui passe à côté aussi, mais la plateforme pétrolière également, et donc on va pouvoir placer les cétacés dans un contexte et comprendre comment ce contexte général va influencer la présence ou pas des cétacés.
Pour enregistrer, en fait, les cétacés, il y a plusieurs méthodes qui sont à notre disposition. Alors évidemment, il faut un hydrophone, c'est-à-dire un microphone étanche. Et là, on va pouvoir disposer ce microphone de différentes façons. La première façon, c'est simplement à partir d'un bateau, on va déployer un hydrophone dans l'eau et puis on va enregistrer tous les sons, toutes les sources sonores qu'il y a autour du bateau. La deuxième méthode, c'est de déployer directement des hydrophones dans des bouées ou sous des bouées, par exemple, et on va pouvoir les laisser une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, un certain temps, et là, on va enregistrer un paysage sonore de façon pratiquement continue. Et puis maintenant, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va mettre des hydrophones directement sur le cétacé. Il va pouvoir partir avec son petit hydrophone cravate, quoi. On va le ventouser sur le cétacé, et là, du coup, on va pouvoir, avoir des informations sur son comportement, puisqu'il y a un petit accéléromètre, il y a des petits capteurs de pression, par exemple, pour savoir à quelle profondeur il est. Et il y a des fois une caméra, donc on sait exactement ce qu'il est en train de faire et de rencontrer éventuellement d'autres individus autour de lui. Et puis, il y a un hydrophone, et donc, du coup, on connaît exactement son environnement sonore au moment où il se déplace et où il agit, quoi. D'accord ? Il y a plein de questions scientifiques qui sont liées à l'enregistrement des cétacés. Bon, les premières, c'est par exemple de analyser en fait leur vocalisation, soit pour décrire le générateur vocal qu'elles ont utilisé pour faire ça, parce que les cétacés n'ont pas de corde vocale. Donc s'ils n'ont pas de corde vocale, il faut quand même qu'on sache quel est le vibrateur qui permet de générer ça. Et puis ensuite, de savoir s'il y a des spécificités individuelles. Par exemple, aujourd'hui, s'intéresser à la signature acoustique individuelle des cétacés, c'est que pour très peu d'espèces dont on a une idée. Et puis après, il va y avoir tout ce qui va être langage, d'accord. Et ça, c'est extrêmement à la mode aujourd'hui, quoi. On a envie d'en savoir plus, c'est-à-dire de connaître en fait la signification des sons qu'elles émettent, ok. Et là, on a deux approches. On a une approche qui est comportementale, c'est qu'on regarde si on est capable de lier un son avec un comportement. Et la deuxième, une fois qu'on a fait ça, la deuxième approche, c'est de prendre les sons et d'essayer de trouver des structures syntaxiques. C'est-à-dire, quelles sont les vocalisations qui sont les plus répétées, par exemple, et quelles sont les séquences de vocalisations qui sont toujours remises dans le même ordre. D'accord ? Comme tu dis, par exemple, si je dis bonjour, comment ça va ? Je ne dirais pas comment ça va, bonjour. Tu vois, ça n'a pas de sens. Ok, et là, par exemple, sur certaines espèces, donc les mysticètes, comme par exemple les bananabos, ça marche super bien, parce que quand on enregistre, on va peut-être en écouter, mais quand on enregistre, on a des sons qui sont mis toujours dans le même ordre. Mais là, pour l'instant, par exemple, sur les bananabos, c'est là où on a pas mal travaillé sur ce truc-là. On peut écouter une bananabos, si ça vous dit. Là, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que on entend actuellement en fait des vocalisations qu'on est capable de distinguer, et quand on les unes après les autres, c'est-à-dire qu'on va donner par exemple alors des numéros ou des lettres aux vocalisations, et puis on va savoir que il va faire une vocalisation A qui va répéter, puis après une B, puis après une C, puis après une B, etc. Et donc on va reconstituer une phrase, et cette phrase, il va la répéter une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis après il va changer de phrase. Il va répéter cette deuxième phrase, il va la répéter encore, etc. Puis après, il va faire une troisième phrase, etc. Il va y avoir 4-5 phrases qui c'est le de répéter en boucle qui vont durer à peu près 15 minutes. Et après, il recommence avec la première phrase, etc., etc. Ok, ça, c'est le principe du chant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, à une vocalisation, on veut donner une signification. Ok, et là, évidemment, on s'est tous dit, il faut qu'on trouve un petit truc. Alors moi, j'étais parti, par exemple, sur les sons pulsés. Je trouvais ça génial, le comme ça, je me suis dit, waouh, ça, c'est un son qui revient assez souvent. On les enregistre genre tous les ans pour tous les chanteurs qui passaient dans l'océan Indien. Et je me suis dit, waouh, ce son-là, il a une signification probablement spéciale. Après, on s'est dit peut-être qu'il est facile à faire, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi souvent émis, hein, on ne sait pas trop. Et puis ce qui est intéressant, c'est que Michelle Fournet, qui est une chercheuse américaine, et elle dit, en fait, le whoop, tu vois, il fait des whoops, là, nous aussi, on l'a dans cette séquence, le whoop, et le whoop, toutes les baleines à bosse du monde entier font des whoops, et c'est wow, quand même le whoop, etc. Donc, on s'est dit, toi, on part tous avec des idées en tête, etc., et on essaie de montrer un truc. Et comment on va faire ? On va faire du playback, c'est-à-dire qu'on va arriver devant une baleine, et on va lui diffuser du son, et on va regarder si elle réagit. Et Michelle Fournet, elle a dit, bah moi j'ai diffusé du whoop, et les individus qui étaient autour ont tous émis un whoop juste après la diffusion du mien. Donc peut-être que le whoop est un son d'appel. Mère baleineau, alors la mère va faire des grognements et elle va s'adresser à son petit et le petit va s'adresser à elle. Et dans l'enregistrement, là, quand vous écoutez, il y a des petits bip, bip, des trucs un petit peu courts, un petit peu haut de fréquence. Bon, là, le baleineau, on voit bien qu'il a un générateur vocal parce que les baleineaux émettent des sons dès leur naissance, d'accord ? Ça, c'était une question qu'on s'est posée. Et on a fait une très belle publi l'année dernière avec Maëv, un étudiant de l'université d'Antananarivo et de Paris-Saclay, où en fait, il a enregistré des sons du baleineau juste avant d'aller prendre du lait, d'aller s'allaiter. Et il a dit qu'en fait, les baleineaux en fait chouinaient en quelque sorte pour de réclamer du lait à leur mère. Quoi. C'est un article qui a fait le tour du monde. En fait, Kate Stafford a écrit, c'est une phrase, d'accord, qui a fait le tour du monde. Donc, je cite la phrase. « Si le chant des baleines à bosse est comme la musique classique, celui des baleines boréales est comme le jazz. » Parce qu'elles ont un peu plus de liberté, d'accord. Elles ont un peu plus de liberté dans leur vocalisation, mais en même temps dans leur phrase. Leur phrase n'est pas hyper stricte, hein, parce que toi, les baleines à bosse, c'est hyper rigide, en fait, leur structure vocale. Elles ont un petit peu plus de liberté, et notamment, des fois, elles émettent des vocalisations un petit peu plus librement, comme feraient les joueurs du jazz, quoi.
Un mot pour conclure, peut-être, Lucie, sur le travail. Ben non, mais c'est le gros enjeu, il est moins dans le fait de capturer les sons que de les analyser, en tirer de l'information d'intérêt qui peut être utile à la fois pour la biologie au niveau fondamental, mais aussi pour la conservation, la protection des océans de manière générale.
Oui, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, la problématique, c'est moins d'acquérir des données, même si c'est toujours bien qu'il reste des campagnes d'acquisition de données, c'est surtout de les annoter. Et là, de plus en plus, il y a quelque chose qui est en train d'apparaître dans la recherche en bioacoustique, c'est la recherche d'un modèle de fondation. Donc c'est, en fait, par exemple, ChatGPT, c'est un modèle de fondation, c'est ces modèles qui sont capables de répondre à une infinité de tâches, entre guillemets. Et nous, le courant actuel de la recherche, c'est plutôt de chercher un bon modèle de fondation qui soit pas entraîné forcément sur des données de bioacoustique sous-marine, parce que, comme Olivier l'a dit, on en a beaucoup, mais très peu sont annotés. Et nous, pour faire de l'intelligence artificielle, on a besoin d'annotations, parce qu'on a besoin de pouvoir dire à notre algorithme, là, t'as bien performé, là, c'est pas bon. Et du coup, des modèles de fondation, en fait, l'idée, c'est de récupérer des gros modèles de fondation qui auraient pu être entraînés sur de la parole humaine, sur des vocalisations d'oiseaux, de mammifères terrestres qui sont un peu plus accessibles, sur lesquels on a du travail de plus long terme, on va dire. Récupérer ces modèles-là et les spécialiser, récupérer certaines caractéristiques qui sont générales et les spécialiser pour notre tâche à nous. Ça, c'est plutôt le dernier état de l'art de la recherche, ça s'oriente plutôt comme ça.
Ce monde sonore, d'accord, le monde sonore dans les océans, moi en tous les cas, j'en avais aucune idée quand j'ai commencé, quoi, d'accord. Et c'est des sons qui sont tellement surprenants, tellement dingues, enfin, je veux dire, quand on écoute un cachalot partir en plongée et qu'il va être capable d'émettre que des clics, hein, tu fais, enfin, clic, 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 pendant genre 45 minutes, tu vois, c'est un monde qui est complètement énorme. Et en fait, nous, on ne pourra jamais descendre à cette profondeur. Et le seul moyen de rentrer dans son monde, c'est grâce au son, quoi. Et là, on va pouvoir se représenter mentalement un monde qui m'est complètement inconnu, tu vois. Et puis, une utilisation du son, mais qui est juste énorme, quoi. Et ça, c'est bien, parce que sur Terre, il n'y a pas de silence, d'accord. Il y a zéro silence, et le son est juste fondamental pour nos vies, quoi.
Merci à Hugo Nani, Luc Moreau, Jean-Christophe Komorowski, Arnaud Burtin, Valérie Delage, Ludovic Crochard, Jérôme Sueur, Grégoire Loïs, Olivier Adam, Lucie-Jean Labadie et Gabriel Dubu. Mixage Pierre-Henri. Attaché d'émission, Marie-Vona Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Science en son, écologie, la nature sur écoute. Un documentaire de Céline Lozen et Guillaume Baldi.